le titre est indiqué, on va faire de la géologie. J'ai ce fil derrière qui m'énerve. Voilà. Alors, c'est en 1609, que la fin de l'année 1609, que commence l'étude géologique, enfin non purement astronomique de la Lune. Avant, la Lune, les gens la regardaient pour faire des calendriers, pour calculer les dates de Pâques, la date du Ramadan, toutes ces choses-là, les récoltes. Mais on ne faisait absolument pas d'étude de la Lune en tant qu'objet naturel. Il a fallu attendre 1609, donc que Galilée pointe sa lunette. Et malgré la mauvaise qualité de cette première lunette, il a pu voir que la Lune, il y avait des montagnes, il y avait des taches sombres, il y avait des dépressions circulaires. Galilée appelait les taches qui lui semblaient plates et qui étaient sombres les mers, maria en latin, et des zones montagneuses qui étaient plus claires qu'il appelait les terres, terrae en latin, qu'on traduit souvent maintenant comme continent, en continent. Et il a vu toutes ces dépressions circulaires qu'on appelle les cratères. Je rappelle qu'un cratère, avant d'être un trou géologique, c'est une amphore dans laquelle les Grecs mélangeaient l'eau, le vin ou conservaient le vin, un cratère. Au départ, c'est un récipient utilitaire. Donc c'est en 1609 que l'étude géologique de la Lune a commencé doucement. Alors là, on peut comparer avec ce qu'on obtient de la Lune à peu près sous le même angle avec des télescopes plus modernes. On confirme, on affine, on précise cette dualité mer-continent qu'avait déjà vu Galilée. Alors on voit que Galilée, quand même, on peut l'admirer et quand même lui faire un petit reproche. L'admirer parce qu'il a pensé à braquer un télescope. Ce n'est pas lui qui l'a inventé, il a fait que le perfectionner vers les astres. Son télescope était, entre autres, avec un tout petit champ visuel. Il ne voyait pas la Lune en entier. Donc il fallait qu'il regarde le nord, le haut, le bas, la droite, la gauche, et ensuite qu'il dessine en raboutant tout ça. Et il ne s'est quand même pas si mal trop fait les choses. Hein. Regardez, ici, vous avez trois grosses taches. 1, 2, 3, on les retrouve. Là, vous en avez quelques-unes qui... Là, par contre, sa grosse faute, entre guillemets, c'est ce gros cratère-là. Il est beau le chercher, il n'y est pas. Mais on va quand même lui pardonner. Hein. Il a fait tellement de choses. Alors là, on est en 1609. On fait un bond. Et c'est à partir de 1959, donc j'avais 7 ans, que l'étude géologique de la Lune commence vraiment avec l'exploration spatiale. Je ne parle surtout pas de conquête spatiale. C'est l'exploration. Et cette photo est la première photo de la face cachée de la Lune, prise le 7 octobre 1959. Les Russes ont bien voulu que ça corresponde plus ou moins à l'anniversaire de la révolution d'octobre. Donc ça survolait ça le 7 octobre, et la sonde Luna 3 a survolé la face cachée de la Lune, avec des photos de pas très bonne qualité. La limite face visible, face cachée passe à peu près là. Là, vous reconnaissez un petit bout de face visible, et c'est la face cachée. Alors, on va regarder dans l'heure écart qui suit plus de 100 photos modernes de la Lune. Avant, je vais vous montrer deux images où il y a la Lune et la Terre réunies. Alors, depuis le début du festival, on en a vu des dizaines, la Terre qui se lève, etc. Celle-là, on l'a dû la voir deux ou trois fois déjà. C'est la première photo de la Terre et la Lune à la fois, vue de très loin. C'est la sonde Galileo qui part vers Jupiter. Et le 16 décembre 1992, elle se retourne et voit un quartier de Lune et un quartier de Terre en même temps, dans le même champ. Caméra, c'est pas un montage. Hein. Je n'ai pas rabouté une photo de quartier de Lune et une photo de quartier de Terre. C'est un vrai champ. Ça, tout le monde la connaît. Une autre photo que j'aime bien, et les gens la connaissent beaucoup moins, c'est vous êtes un satellite au point de Lagrange L1. Vous êtes à 1 500 000 km de la Terre, juste dans l'alignement Terre-Soleil. Et vous ne bougez pas. C'est de la mécanique céleste. Vous êtes là, stable. Et de temps en temps, la Lune passe exactement entre vous et la Terre. Et si vous prenez plusieurs photos, vous avez donc une pleine Terre, une pleine Lune, vous avez le Soleil dans le dos, et vous voyez la Lune qui passe devant la Terre. Cette photo a été prise le 5 juillet 2016 par un satellite météorologique climatique qui était situé au point de Lagrange. C'est une photo que je trouve assez chouette. Donc, on va voir quelques aspects de la géologie lunaire, que quelques-uns, parce que j'ai qu'une heure et quart. Alors, si on a le temps, je l'ai mis au début, ce serait logique de commencer par ça, mais on ne le verra qu'à la fin si on a le temps, les cratères lunaires. Parce que les cratères lunaires, finalement, ils ne sont pas si fondamentalement différents des cratères de Mercure, des cratères de Mars et tout ça. Donc si on a le temps, on parlera des cratères lunaires. Sinon, on va parler du volcanisme lunaire, de la structure de la Lune, de la tectonique de la Lune, de l'eau sur la Lune et de l'origine de la Lune. Et puis on verra si on a le temps de faire la suite. Donc, on va commencer par le volcanisme lunaire. Alors ça, c'est une photo quasiment qu'aurait pu voir Galilée si son télescope avait été meilleur. Il n'aurait pas vu sous le même angle. C'est la différence entre continent à gauche, mer à droite. Et rien que quand on voit si Galilée appelait ses plaines plates des mers, c'est pas qu'il pensait que c'était liquide, il ne savait pas trop. Mais Galilée était déjà monté sur une montagne. Il y a quelques montagnes en Italie. Il y a la mer, souvent pas très loin des montagnes. L'Italie est une péninsule étroite. Et il savait très bien que vu de haut, les mers, c'était sombre, plus sombre que les continents. Et la limite mer-continent, la côte, était plus ou moins plate. Enfin, était pas plus ou moins plate, était parfaitement horizontale. Et puis des fois qu'il y avait des montagnes qui dépassaient de la mer, ça s'appelle des îles. Et quand vous êtes au-dessus de Pise, vous voyez certaines îles au lointain. Et il a vu que les mers, vues de comme ça, ressemblaient assez aux mers terrestres vues de haut. Il y a une limite qui est plus ou moins horizontale. Il y a des îles. Alors là, les îles sont circulaires parce que c'est d'anciens cratères. Et qui dépasse de la mer. Donc rien que quand on voit ça, on dit cette mer, ça doit être liquide. Ça a dû être liquide. Comme la mer actuelle est liquide. Donc si ça a dû être liquide, évidemment ça ne l'est plus. Il y a des cratères de météorites récents qui se forment dedans. Soit c'était des sédiments déposés par exemple par des lacs, des calcaires lacustres. Soit c'était des grandes plaines de lave liquide qui ont rempli un trou et dont la limite avec les continents sont horizontales. Et puis quand il y avait des montagnes qui dépassaient, ben, la mer est rentrée dans les montagnes, mais épargne le sommet des montagnes. Alors voilà une autre vue qui montre la même chose, la mer plate et les continents. Et la limite suit l'horizontale. Là, vous avez un ancien cratère, la mer rentre dedans, comme l'Atlantique rentre dans le golfe du Morbihan. Là, vous avez Loch Mariaker, là, vous avez Port Navalo, et là, vous avez le golfe du Morbihan. Ça ressemble à ce que vous pouvez voir Galilée d'une baie au sommet d'une montagne. Alors on va les regarder en détail, ces grandes plaines. Là, Victor Hugo aurait pu dire mer lunaire, morne plaine. Parce qu'en dehors de quelques cratères plus récents qui percent la mer, ici vous voyez vraiment pas grand-chose d'intéressant. C'est pas avec ça qu'on va faire de la géologie orgasmique, comme a dit Sylvain Boulet il y a quelques jours. La seule chose qu'on voit ici à part les cratères, c'est ce relief un peu bizarre dont on va reparler dans quelques temps. Si on regarde bien ces mers lunaires, ou tous ces reliefs dont on va parler dans quelques temps, on voit des choses comme ça. Une espèce de langue qui domine la plaine, qui est allongée, qui est étroite, et dont les bords sont flexueux. Et ça, n'importe quel géologue qui a une certaine culture dans des pays volcaniques, donc ce n'est pas forcément le cas de quelqu'un qui habite au milieu du Missouri, mais quelqu'un qui habite à Hawaï, par exemple, si je reste dans les Amériques, un Hawaïen, un habitant d'Hawaï, quand il voit ça, il dit, bah, bon sang, c'est une coulée de lave. Voici une vue Google Earth du flanc du Mauna Kea. Voici une vue, pas Google Earth, mais satellite de la Lune. Avouez qu'il y a des points communs. Et si on veut rester français, parce que les Américains, c'est bien, mais enfin la France, c'est mieux, voici une super coulée de lave à La Réunion, et vous pouvez comparer cette langue qui s'avance par rapport à cette langue qui s'avance. Donc il y a une morphologie caractéristique de coulée de lave. Mais attention, l'habit ne fait pas moine, c'est pas parce que ça ressemble que c'est forcément. Mais on a un faisceau de présomption quand même très fort. Alors si c'est des coulées de lave, il y en a une de temps en temps, ou il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors on a des sondes naturelles sur la Lune ou sur Mars, qui sont des cratères tardifs, récents. Là vous avez le cratère Euler qui fait 28 km de diamètre, donc a priori 2 à 3 km de profondeur. Vous avez le rempart, là donc, qui est donc une coupe, si je prends le carré, qui on voit sur au moins 1 km d'épaisseur, qu'est-ce qu'il y a dans ce coin-là de la mer des pluies ? Ben, si on regarde ce qu'il y a dans ce coin-là, on voit un empilement de couches, il y a à peu près 1 km d'épaisseur de là-haut à en bas. Alors, ces couches, ça pourrait être très bien des empilements de roches sédimentaires, mais des roches sédimentaires qui font des morphologies comme ça, c'est suspect. ou ça peut être des empilements de coulées basaltiques les unes sur les autres. Est-ce vraisemblable d'avoir plus d'un kilomètre d'épaisseur de coulées basaltiques les unes sur les autres? Évidemment, rien, même sur Terre, ça existe. Voici en Islande, c'est l'hiver, vous avez un empilement, chaque strate, chaque couche, c'est une coulée basaltique, et en Islande, on en est sûr. Il suffit de prendre le ferry boat pour traverser le fjord, et vous cassez, vous voyez que c'est du basalte. Alors, dans ces mers lunaires, toujours, quand on regarde, et on les voit au télescope, dans Autour de la Lune, le roman de Jules Verne qui fait suite à De la Terre à la Lune, il se pose des questions sur ces structures qui ressemblent à des vallées, des super vallées fluviales qui serpentent, qui tournent, il y a des méandres, etc. Mais il n'y a pas d'eau liquide sur la Lune. Ni eau liquide, ni gaz carbonique liquide, ni ammoniac liquide. Qu'est-ce qui a pu éroder ces mers lunaires qui sont maintenant des empilements de coulées de basalte? Qu'est-ce qui a pu éroder ça? Alors, il n'y a pas d'eau liquide, et il ne peut pas y en avoir sur la Lune. Il fait 120 degrés le jour, moins 150 la nuit, et la pression est quasi nulle, c'est le vide. Si vous mettez de l'eau liquide la nuit, elle gèle évidemment, c'est moins 150. Le jour, eh bien, elle se sublime tout de suite. L'eau liquide n'est pas stable à la surface de la Lune. Et pourtant, il y a des vallées. Alors regardez, là, vous avez des belles vallées. Il y a même des confluents, la grande rivière, là, qui reçoit un affluent. Là, vous avez la Garonne qui reçoit le Lot, par exemple, au département du Lot et Garonne, qui serait par là. Qu'est-ce qui fait ces vallées? Alors, toujours pareil, est-ce qu'on connaît des structures comme ça sur la Terre? Alors, voici la seule photo à caractère sexuel que je vais vous montrer. Là, je ne suis pas en forme. Vous avez ici, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un spermatozoïde géant? La tête du spermatozoïde fait quand même 140 mètres, et le flagelle, vous avez jusque là-bas au bout, fait 7 km de long, hein, c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est que ce spermatozoïde géant? Eh bien, on est dans des coulées de basalte, et c'est ce qu'on appelle un tunnel de lave effondré, et je vais vous expliquer ce que c'est qu'un tunnel de lave effondré. Si vous allez à Hawaï ou à La Réunion, juste après une éruption, la surface de la coulée est solidifiée, vous pouvez marcher dessus. Il faut faire attention, parce que souvent, ça coule encore dessous. Et vous avez de véritables grottes dans lesquelles ça coule, la lave coule, toute rouge, toute chaude, et puis de temps en temps, ça s'éboule, ça fait ce qu'on appelle des lucarnes. Vous avez ici deux lucarnes. Il doit y avoir un tube de lave dans lequel la lave coule. Quand ce n'est pas effondré, vous ne le voyez pas. Si c'est effondré un petit peu, vous voyez des lucarnes. Et si c'est effondré sur tout le long du chenal où ça coule, vous avez donc ces vallées flexueuses comme ça. L'échelle vous est donnée ici par la route. Là, on est aux Canaries, en Europe. On paye avec des euros, il faut y aller. Et si vous allez aux Canaries, plutôt que bronzer idiot sur les plages, allez donc voir des volcans. Alors, vous êtes aux Canaries, vous garez votre voiture ici. C'est un parc national, donc il faut être plus ou moins accompagné par des guides pour ne pas tout détériorer. Vous remontez le chenal de lave effondrée et vous il m'en manque. Voilà. Et vous arrivez à la sortie. Enfin, avant, là, il ne s'est pas effondré. Alors, comment ça se fait, ces structures? Je vous explique. Imaginez une vallée, alors qu'elle est plus ou moins large. Là, j'ai fait une vallée étroite, mais si vous avez une vallée très large, c'est pareil. Une coulée de lave arrive, par exemple, elle vient de derrière l'écran, et elle va vers vous, et donc vous remplissez la vallée de lave qui coule, elle coule vers vous. Ça se solidifie au contact de la roche froide, ça se solidifie plus ou moins au contact de l'atmosphère froide aussi, surtout si vous êtes en hiver. Et vous avez donc la lave qui coule dans un manchon de basalte solide. Ça coule vers vous. Imaginez-vous que Dieu baisse le robinet, le débit baisse. La lave coule encore, mais un niveau plus bas. Et vous avez la lave qui coule en bas, et en haut, c'est dégagé. Et si ça s'effondre, eh ben, ça fait une lucarne. C'est exactement ce que vous voyez là. Et puis si ça s'effondre complètement, eh bien, ça fait ce qu'on vient de voir là. Donc, les tubes de lave, alors c'est en France, si vous voulez voir des beaux, il n'y a qu'à La Réunion qu'il y en a des beaux. Personnellement, des tubes de lave avec une grotte où on peut rentrer dedans, je n'en connais qu'un en Auvergne, et on peut rentrer sur 40 mètres parce qu'après, c'est éboulé. Donc, on va rentrer dans ce tunnel de lave, donc qui se trouve quelque part là-bas au fond. Et quand vous rentrez dedans, vous avez un tunnel. Vous voyez les différentes étapes de la baisse du niveau du tunnel, parce que quand la lave coulait, elle a d'abord coulé là, puis elle a baissé, elle a coulé là, ça fait comme des marques du retrait d'une rivière, une rivière qui baisse, vous voyez les marques d'un retrait, vous voyez les petits stalactites de basalte au plafond. Regardez comme c'est beau, ces petits stalactites de basalte au plafond. Alors là, c'est celui-là, j'ai mélangé des photos Canaries, Açores et Islande. Ça, c'est aux Açores. C'est des visites organisées pour les touristes. Enfin, c'est des touristes. Il ne faut pas avoir peur de marcher. Il faut prendre un casque. Mais en payant pas beaucoup d'euros, vous pouvez faire une randonnée spéléologique toute sécurité dans ces tunnels de lave effondrés. Alors, un autre tunnel de lave qui est en Islande, sauvage, c'est pas moi qui ai pris la photo, parce que là, c'est de la spéléo plus hard. Il faut ramper par des chatières et bon, d'eau ne le permet plus trop. Mais vous avez un enchantement basaltique avec des stalactites, des stalagmites de basalte. C'est extraordinairement beau. Ça, c'est une des choses que j'irai voir quand j'irai sur la Lune. C'est rentrer dans des tunnels de lave basaltique lunaire. Alors, le mieux connu de ces sillons effondrés, c'est le sillon Hadley, qui est par là. Parce que Apollo 15 s'est posé près du sillon Hadley. Apollo 15 s'est posé entre les monts Apennins qui sont ici et le cratère Archimède qui est là, les monts Apennins et le cratère Archimède. Et il s'est posé exactement là où il y a la flèche rouge. Alors on zoome, vous avez les mers, dans un golfe de la mer des pluies, vous avez les monts Apennins au sens large, et vous avez ce sillon effondré. Vous avez l'échelle, hein, 60 km de long, il est... Mon spermatozoïde terrestre, il est battu à plate couture. Hein. La Terre, c'est des petits au point de vue spermato. Et Apollo s'est posé ici, Apollo 15. Donc il s'est posé là. Et là, vous avez le tunnel de lave. Et là, vous voyez, par exemple, qu'il s'est presque pas effondré. Un tout petit peu, mais presque pas. Donc a priori, là-dessous, il doit y avoir des grottes. Et ça, c'est vachement intéressant, parce qu'un des problèmes, s'il y a des stations scientifiques sur la Lune... ça sera se mettre à l'abri des rayons cosmiques lors des éruptions solaires. Donc il y a deux façons, soit vous faites un village et vous recouvrez tout ça avec des bulldozers de plusieurs mètres de sol, soit vous vous installez près d'une grotte, et en cas d'éruption solaire, on prévoit les éruptions solaires avec quelques heures d'avance, le temps que la bouffée d'électrons et de protons arrive, vous allez tranquillement vous mettre à l'abri dans une grotte. Alors, Apollo donc 15 s'est posé là. Voici le trajet qu'il a fait. Voici le sillon éboulé. Vous avez l'échelle, c'est du Google Earth, donc l'échelle est là. Il y a 750 mètres entre là et là. Et une des endroits où il a fait des très belles observations, c'est là et surtout là. Et ça, c'est là qu'il y a les photos les plus célèbres de ce sillon vu du bord, que vous avez déjà vu. Tout le monde connaît cette photo. Je préfère celle-là, c'est une mosaïque qui est un peu plus grande, où on voit la vallée Fétieuse qui fait ça, qui tourne. Hein. Ce que vous voyez, c'est ça. Hop. Et là, on peut regarder, si vous zoomez en face, vous voyez des couches de lave en place. C'est un des rares endroits où on a vraiment les roches en place. Les roches en place, c'est le Saint Graal pour un géologue. Vous pouvez en ramasser et les ramener sur Terre. Et dans ce cas-là, là, il n'y a plus aucune ambiguïté, c'est du basalte. Alors, basalte à l'œil nu, si je puis dire. Basalte en lame mince, les géologues ont l'habitude de couper les roches en tranches. L'épaisseur des tranches est 30 microns. 30 microns, c'est le papier à cigarette. C'est le plus fin des préservatifs. C'est très fin. Et la roche devient transparente. Et avec des lumières polarisées, on donne des couleurs. Et n'importe quel étudiant de deuxième année en géologie va reconnaître des pyroxènes, des plagioclases, s'il est bon. Il y a certains morceaux de basalte qui sont pleins de trous. Ces trous, c'est d'anciennes bulles de gaz. Alors ça, c'est étonnant. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de gaz sur la Lune. Que si elle s'est faite, comme on l'a toujours dit, que je le dirai tout à l'heure, par un choc, la Lune a été entièrement fondue, et a priori, il ne peut y avoir de gaz, ni vapeur d'eau, ni gaz carbonique de l'intérieur. Le a priori s'avère faux, parce que, manifestement, il y avait des gaz dans ce basalte-là. Donc on va discuter plusieurs fois de ce problème des gaz sur la Lune, j'ai mis 4 points d'exclamation. C'est une des raisons pour lesquelles il faut aller sur la Lune, pour essayer de comprendre ce problème d'origine des gaz qu'on trouve dans les roches lunaires. Alors, un autre secteur des mers lunaires, on va regarder en détail ici, le carré, je zoome ici, et là, vous voyez un trou qui manifestement ne ressemble pas au cratère ordinaire. Vous allez chez un kilomètre. Et si on regarde ce trou, ce n'est pas un cratère météorite ordinaire, c'est un effondrement ponctuel d'un tunnel de lave qui se... si vous regardez où ça, il y a un tunnel de lave un tout petit peu effondré, ici, c'est là, pas du tout effondré là, mais là, paf, il y a un bel effondrement. Donc moi, c'est là que je m'installerai, quand j'irai sur la Lune, et je mettrai des escaliers pour descendre dans le fond du trou, parce qu'il doit y avoir tout un réseau de galeries qui part là-dessous, et je pourrais me mettre à l'abri des éruptions solaires. Alors ça, c'est un trou qui fait 65 mètres de diamètre sur des plaines de lave lunaires. Rien ne vaut que de trouver la même chose sur des plaines de lave terrestres. Voici un trou, effondrement, d'un tunnel de lave qui existe là-dessous. On peut rentrer dedans si on fait de la spéléo. Et vous voyez le trou, l'échelle est donnée par les palmiers, ici les maisons. Alors en plus de ces grandes coulées de lave qui font des plaines, si ça fait des grandes plaines de lave, si ça fait des tunnels, c'est que c'est de la lave bien liquide, bien fluide, viscosité très faible. Ça coule. On a pas beaucoup. Il faut chercher, mais quand on cherche, on a des édifices volcaniques en dôme, ici en vue verticale, là les mêmes en vue oblique, ce qu'on appelle les collines de Marius sur le bord de l'océan des tempêtes. Ce sont des dômes de lave avec une lave tellement visqueuse que ça ne coulait pas. De mon temps, on apprenait ça en quatrième, il y avait les volcans hawaïens qui coulaient, les volcans péléens qui faisaient des dômes ou des aiguilles. Alors voilà des dômes de lave terrestres, alors là c'est un volcan éteint, et là c'est un dôme de lave en train de se mettre en place, c'est en Indonésie, ça c'est en Californie. Donc ça veut dire qu'il y a du magma visqueux. Alors je ne vais pas vous faire un cours de géologie parce que j'ai qu'une heure et quart, mais quand vous produisez de la lave, 90 fois sur 100, c'est de la lave basaltique ou assimilée, ça coule. Mais il peut y avoir une évolution chimique du magma basaltique qu'on appelle la différenciation magmatique, qui fait partir d'une lave bien fluide, très peu visqueuse, qui coule, à une lave très épaisse, très visqueuse, qui ne coule pas, et ça fait des dômes. Alors, on connaît ce phénomène sur Vénus, il doit exister sur Mars parce qu'on a des cailloux, mais apparemment, ça existe aussi sur la Lune, parce que la morphologie en dôme fait irrésistiblement penser à des laves différenciées. J'aimerais bien qu'on ramène des cailloux de ces dômes pour savoir si cette interprétation à distance est bonne. Donc, ça sera un de mes objectifs de mission spatiale, ramasser des cailloux sur ces dômes-là, ou d'autres. Alors, quand on cherche bien sur la Lune, on trouve, associé à des failles, on reparlera des failles tout à l'heure, là, vous voyez des failles, des zones plus sombres. Oui, une zone qui est plus sombre ici. Là, vous avez des craquelures, des failles, et là, il y a une zone plus sombre. Et là, il y a une zone plus sombre aussi. Des fois, c'est pas que c'est plus sombre, c'est plus clair. Mais c'est différent du reste. En général, c'est plus sombre, parfois c'est plus clair. Et là, on a l'interprétation qu'on en donne, mais là encore, il faudrait y aller pour voir de près, c'est que c'est des dépôts de cendres volcaniques qui ont été... Les cendres, c'est projeté par des gaz. C'est peut-être un cratère de volcan qui est sur une faille, mais il a saupoudré la région de cendres noires. Et pour saupoudrer la région, il faut du gaz propulseur. Alors, on ne s'est jamais posé près d'un affleurement frais, pur, vierge, extra, de dépôt comme ça. Mais un peu sans le savoir, on s'est posé avec Apollo 17, avec un dépôt comme ça, qui avait été recouvert par des éjectats d'un impact, mais qu'on a pu reconnaître. Et si on ramasse donc de ces dépôts de cendres, supposés cendres, un endroit où ça a été un peu recouvert, c'est les fameux dépôts orange d'Apollo 17, où, quand vous ramassez donc là-dedans, vous avez des sphérules de verre volcanique, et des minéraux noirs et des sphérules oranges. C'est typique de dépôts pyroclastiques. Donc, au moins pour celui-là, bien que qu'il ait été recouvert a posteriori, c'est des dépôts pyroclastiques. Pyroclastique, c'est-à-dire pyros le feu, clastique cassé, donc cassé par le feu. Donc, il y a des dépôts pyroclastiques. Là encore, il y a un gaz propulseur qui a projeté des cendres. Mais ça projette des cendres, ça ne fait pas de volcan, ça fait un dépôt noir. Parce qu'il n'en a pas dû en sortir beaucoup, ça s'est bien étalé. Il n'y a pas de frottement atmosphérique, donc ça va avec la vitesse initiale. Il n'y a pas d'érosion, ça reste. La gravité étant faible, même si on ne projette pas très fort, ça va quand même très loin. Est-ce qu'il y a des volcans au sens image d'épinal du terme, c'est-à-dire la montagne avec son cratère au sommet? Vous demandez à un gamin qu'est-ce que c'est qu'un volcan. Alors ces dépôts pyroclastites, qui ne sont pas associés à des volcans au sens morphologique du terme, il y en a un peu partout. Et là, c'est une carte, alors j'arrive pas à lire, mais là, vous avez la référence. Par exemple, vous grossissez ce machin-là, vous avez la référence, vous trouvez la référence. Vous voyez, il y en a un peu partout. Dès qu'il y a des roches volcaniques des mers, il y a des dépôts pyroclastiques. Alors, c'est fait avec la mission LRO, tout ça. Les gens qui se posent des questions, mais pourquoi les Américains se désintéressent de la Lune depuis 72? Ils ne se désintéressent absolument pas, ils ne sont simplement pas envoyés de bonhommes, parce que ça coûte trop cher, mais ils ont envoyé 7 ou 8 sondes automatiques qui ont fait des résultats scientifiques prodigieux. Par exemple, la carte des roches volcaniques pyroclastiques sur la Lune. Toujours le même problème, quels sont les gaz qui les propulsent? Alors je vous dis quand même, en cherchant bien, on arrive à trouver des choses qui ressemblent à des volcans. Il y en avait deux ici, une montagne, avec le cratère juste au sommet. Alors on pourrait me dire, ouais, c'est qu'il y avait une montagne et puis il y a une météorite qui, par hasard, est tombée juste au sommet. Pourquoi pas? Là, il y en a deux côte à côte, hein. Ça fait déjà deux hasards étranges. Mais voilà des détails de ces montagnes avec le cratère au sommet. Et là, je vous en montre un que j'aime bien, enfin trois que j'aime bien. On est dans la mer des pluies. On a ici... Vous voyez les cratères de météorites ordinaires. Vous voyez ici, ce cratère-là et ces deux-là ne ressemblent pas aux cratères de météorites ordinaires. Et là, c'est une montagne avec deux trous qui sont ensuite été entourés par le basalte des mers qui a coulé, qui a entouré tout autour, mais qui a épargné le sommet de la montagne pour ces deux-là. Là, pareil, il y avait une montagne avec un cratère au sommet et le basalte des mers a entouré la montagne et rentré parce que par les trous, il est rentré par là, il est par là, mais il a laissé trois quarts, quatre cinquièmes du cratère qui émerge. Alors, la maison ne reculant devant aucun sacrifice, vous avez ici, a priori, un cône pyroclastique avec un double cratère. Est-ce qu'on connaît sur... Et le tout envahi par des plaines de basalte. Est-ce que on connaît sur Terre des cratères doubles de cônes pyroclastiques à partiellement envahis par des coulées de basalte? Alors, c'est pas bon pour le bilan carbone, mais on en trouve. Voici ici un double cratère, un grand cratère, un petit cratère. L'échelle vous est donnée par cette petite tache qui est un monsieur, qui, comme ça, qui fait de l'ombre. C'est à La Réunion. Et le tout est complètement entouré par des laves du Piton de la Fournaise. Voici la Terre. Voici la Lune. Et un truc comme ça, indépendamment du basalte, hein, c'est que c'était des volcans qui ont dû ressembler à ça. Un petit moment. Alors voilà ce volcan, il s'appelle Formicaleo, c'est le fourmilion, parce que ça ressemble à deux terriers de fourmilions, qui sont des espèces d'insectes qui font des trous, parce qu'ils pensent qu'il va y avoir une fourmi, ça arrive derrière, qu'ils voient un trou qui est bête, et hop, la fourmi glisse, fourmilion est au fond, à l'affût, et paf, il boulotte la fourmi, donc le fourmilion. Voici donc l'équivalent de Formicaleo sur la Lune, et Formicaleo, il y a, je sais pas, 200 ans, hein, ça devait ressembler à ça. Alors, quel est l'âge de ce volcanisme lunaire des mers, que ce soit le volcanisme normal, les basaltes, ou les petites pichenettes pyroclastiques qu'on voit? Alors, on va étudier ce problème de l'âge avec la mer des pluies, Mare Imbrium en latin. Manifestement, vous voyez que les mers, qui sont plus sombres, c'est du basalte, alors que ça, c'est du gabbro de l'anorthosite, on voit très bien qu'elles sont souvent circulaires. La mer des crises, la mer de la sérénité, la mer... Imbrium, et si c'est circulaire, c'est que ça remplit d'anciens très grands cratères de météorites. Et j'ai entendu des milliers de fois des astronomes amateurs, parce que ça se voit très bien au télescope de la Terre, des géologues amateurs, des revues style Science et Vie, dire, eh ben c'est parce que il y a un gros impact qui s'est fait, ça a traversé la croûte, et le magma est sorti. Ça, c'est la version complètement idiote, parce qu'il n'y a pas de magma en général sous la croûte, que ce soit la Terre ou la Lune, sauf à certaines époques très particulières, il n'y a pas de magma sous la croûte. Alors faire un trou dans une croûte pour faire sortir un magma qui n'y est pas, ça ne va pas. Alors, il y en a qui améliorent l'interprétation, qui disent, oui, mais à l'impact, il a amené tellement d'énergie qu'il a fait fondre le substratum sur lequel il est tombé. Sauf que le substratum sur lequel il est tombé, ce n'est pas la même minéralogie, c'est des anorthosites, ça ne ferait pas du basalte. Il y a des gens qui sont encore plus évolués, qui disent, ça a percé la croûte et ça fait fondre le manteau qui est dessous, l'énergie de l'impact. Et là, si vous faites fondre du manteau, vous faites du basalte, là ça va très bien. Mais il y a un gros problème de chronologie. C'est que l'âge du basalte n'est pas du tout l'âge de l'impact. Et ça peut se faire au télescope. Si vous avez un télescope de qualité, amateur de qualité, on peut tout de suite voir Et je vais vous montrer comment. Voici la mer des pluies, Mare Imbrium, qui remplit ce gigantesque cratère d'impact que j'ai souligné en rouge, qui fait 1100 km de diamètre. La France tout entière tiendrait, la France métropolitaine tout entière tiendrait dans cet impact. Comment prouver géologiquement, avec simplement une photo, ça c'est une photo télescopique, que le basalte des mers n'a rien à voir avec l'impact d'Imbrium, sauf qu'il remplit le trou. Regardez, j'ai souligné 4 cratères. Il y en a d'autres, mais j'en ai pris que 4. Sinus Iridium, Plateau, Cassini, Archimède. Regardez Archimède, qui est là, en vue oblique. Archimède, il est dans le grand cratère d'Imbrium. Il est arrivé dedans. Après, il est évident que si Archimède existait là, quand vous avez fait le grand cratère, Archimède aurait disparu. Donc Archimède s'est fait après, puisqu'il est dans le grand trou. Et il est entouré et il est plein de basalte. Donc Archimède s'est fait après la formation du bassin d'Imbrium, mais avant les dernières coulées de basalte, celles qui affleurent en surface. Donc si le basalte était la conséquence de l'impact, quel que soit le type, il aurait fallu qu'il vise bien Archimède, hein, qu'il arrive dans la, je sais pas, le jour ou la semaine ou le mois qui suit pour que le volcanisme le remplisse lui-même. Mais il n'y a pas qu'Archimède. Regardez Sinus Iridium. Il est à cheval sur le bord du cratère. Donc s'il est à cheval sur le bord du cratère, il aurait été détruit par l'impact. Et il est lui aussi rempli. Ils sont, tous les quatre que j'ai mis d'autres, plus d'autres qui sont là, sont arrivés après le gros impact et avant le remplissage des mers. On va regarder. Voici le bassin Imbrium, je n'ai pas dessiné les éjectats, mais tous les environs étaient recouverts de débris. Puis, ça c'est l'étape 1. Étape 2, paf, vous faites Sinus Iridium. Étape 3, vous faites, alors je ne sais pas si c'est dans l'ordre, vous faites Plateau. 4, vous faites Cassini. 5, 6, 5, vous faites Archimède. Et tout ça, ça s'est fait avant le remplissage. Donc, ce n'est pas un cratère qui a bien visé chronologiquement plein. C'est 4, et puis j'aurais pu rajouter celui-là, etc. Là, plein. Et ce n'est qu'après qu'on envahit tout par la mer. Donc, entre l'impact d'Imbrium, le trait rouge, et le remplissage par la mer, il a fallu un temps, un certain temps, comme pour le fût du canon, pour qu'il y ait le temps que le bombardement météoritique et fasse 4, les 4 dont j'ai parlé, plus quelques autres, impacts majeurs. Et ça ne se fait pas en 5 minutes. Donc rien qu'avec un télescope, on voit que chronologiquement, il y a un grand écart de temps. Donc si une relation, elle n'est pas si directe que ça, ce n'est pas la chaleur de l'impact qui fait le basalte. Et là, c'est magnifiquement confirmé, parce que Apollo 14 a pu dater, avec les méthodes de la radioactivité, avec l'échantillon ramassé sur le cratère Framoro, la formation Framoro, l'impact d'Imbrium, et Apollo 15 a amené du basalte d'Imbrium. Et l'étape 7, ici, c'est les cratères récents qui percent tout. Eh bien, Apollo 14 a trouvé que le grand impact datait de 3,85 milliards d'années, et le basalte d'Apollo 15 est arrivé que 450 millions d'années après. 450 millions d'années, c'est deux fois l'espace de temps qui nous sépare de l'apparition des dinosaures. C'est très grand. Et 3,85 milliards d'années. Donc la radiochronologie confirme l'ordre, mais ça on n'en avait pas besoin, mais donne des chiffres. Moi je disais, il y a un certain temps d'écart, si on n'était pas allé sur la Lune pour ramasser des échantillons, que les échantillons étaient ramenés par des cosmonautes ou des robots, ça ne change pas le problème, sauf que quand c'est des cosmonautes, peut-être que c'est mieux choisi. Si celui qui va sur la Lune est géologue, à l'époque c'était des pilotes de ligne qui ramassaient pas trop. Il n'y a qu'un géologue qui est allé sur la Lune, c'est Harrison Schmitt, Apollo 17. Donc voilà ce que je peux vous dire sur l'âge. Donc l'âge du volcanisme lunaire, en fait, on s'aperçoit qu'il est éteint depuis, on va dire, 2 à 3 milliards d'années au mieux. Alors, on explique pourquoi ce volcanisme est éteint depuis très longtemps. C'est parce que la petite taille de la Lune fait qu'elle n'a pas pu conserver sa chaleur initiale, qui a beaucoup moins de radioactivité globale que sur la Terre, par exemple, ou Vénus, qui sont plus gros, et que le rapport volume, c'est-à-dire quantité d'énergie produite à l'intérieur, surface, facilité d'évacuation de la chaleur, est très défavorable à la maintien de la chaleur, donc la Lune s'est refroidie. Et puis j'ai rajouté « mais ». Tout ce que je viens de vous dire, c'est vrai si on regarde de loin. Si on regarde de près, alors je ne pense pas qu'avec un télescope terrestre on y arrive, c'est trop petit. On voit des structures bizarres. Là, dans la région des Graben-Sosignes, vous avez des Graben, on y reviendra. Vous avez des trous qui n'ont pas une gueule de cratère, ils sont longs. Celui-là est sur la faille, là une autre faille qui se croise, celui-là est au croisement de deux failles. Vous regardez le trou, il est plein d'un dépôt lobé. Bizarre ce truc-là. On va regarder là. Ces dépôts lobés, alors là, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de grands cratères, mais il y en a pas mal de petits. C'est une photo à très bonne résolution. Est-ce que j'ai mis l'échelle quelque part? L'ensemble là fait 2800 mètres de profondeur, 300 mètres de large. Vous voyez, c'est vraiment pas gros. Ça, ça fait 300 mètres. Donc ça, ça fait 200 mètres. Oh, c'est la place Bellecour à Lyon. Je ne suis pas parisien, je ne parle pas de place de la Concorde, c'est la place Bellecour. Et regardez ces lobes là, il n'y a pas à cette résolution là. Il y a sur la place Bellecour, il y a la statue de Louis XIV. On la verrait là, la statue de Louis XIV. Ben là, on ne la voit pas. Il n'y a pas de statue de Louis XIV, ce n'est pas une grande surprise, mais il n'y a pas de cratère. Ça veut dire que ce coin-là est hyper jeune. Allez, 500 millions d'années peut-être. Donc, il y a quelque chose qui a coulé, ça fait des lobes, la Lune, et il n'y a pas longtemps du tout, pas longtemps pour un géologue. C'est contraire à l'évangile selon saint relation taille-volcanisme, ça ne va pas ça. Et c'est pas le seul. Regardez ici, une dépression bizarre, plein de trucs lobés, il y a des endroits où il n'y a pas un cratère. Alors que sur les mers lunaires, regardez tout ce qu'il y a. 2 kilomètres de long de là à là. Alors ces structures, qu'on appelle ça des IMP, Irregular Mare Patches, c'est comme les mers lunaires, ça a la même couleur, la même albédo, le même spectre, mais c'est tout jeune. Et en voici une carte pour celles qui ont plus de 100 mètres de diamètre, c'est toujours petit. Et ici, il y en a 70 qui ont plus de 100 mètres de diamètre. L'origine de ce volcanisme récent, marginal mais réel, est une des grandes énigmes de la géologie lunaire. Je ne peux pas vous dire pourquoi le manteau a fondu si tardivement, il y a si peu de temps. Alors il y a des modèles proposés, mais qui sont à l'état de proposition discutée, au sens noble. Alors une autre énigme, c'est que les mers lunaires sont très irrégulièrement réparties. Les mers lunaires couvrent 17% de la surface totale de la Lune, mais la quasi-totalité du mer sont en rouge, sont d'un côté de la Lune, la face visible. Sur la face cachée, regardez, il n'y a pas beaucoup de rouge. Il y en a un petit peu, là, 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 là. Sinon, les continents, c'est patchwork de couleurs. Hein, ça, c'est une carte géologique. Face cachée, face visible. Mais il n'y a pas beaucoup de mer sur la face cachée. Pourquoi? On y reviendra tout à l'heure. C'est fini pour le volcanisme. Avec deux questions, dont une où je ne répondrai pas. Là, pourquoi du volcanisme récent? Et une dont je répondrai à moitié, pourquoi plus de mer d'un côté que de l'autre. On va parler de la structure de la Lune. Alors, il faut que je me dépêche. La Lune, c'est un champ de bataille. Il y a les continents lunaires, c'est un champ de bataille. Les cratères se recoupent les uns les autres. Vous voyez par exemple ce cratère-là, il est très vieux parce qu'il est perforé par plein de cratères plus petits et plus jeunes, mais lui-même s'est fait en recouvrant à moitié celui-là. Quand on ramasse des cailloux sur ces continents lunaires, qui sont un champ de bataille, voici un géologue qui va ramasser des cailloux, on peut regarder les cailloux, sont trop gros, on les regarde de près sans les ramasser, et qu'est-ce qu'on voit? On voit que ces cailloux, c'est fait de brèches. Un brèche, c'est un conglomérat, un agglomérat de débris de nature diverse. Ici, par exemple, vous avez des débris marrons dans un ciment clair. Là, j'ai des échantillons, vous avez des débris clairs dans un ciment foncé. Entre parenthèses, ceux qui viennent me voir après, à la fin à la question, je pourrais leur montrer de près des morceaux de brèche lunaire qui ont été ramenés par des météorites et qui ont été prêtés par le marchand de météorites qui l'accueille là. Si vous le voulez, hein, vous pouvez en acheter. Le gros morceau, là, ça coûte à peu près 1500 euros. Bon, 1500 euros, qu'est-ce que c'est? Ben, des fois, on fait des bons repas avec les bons vins qui font 1500 euros. Ça m'est jamais arrivé, mais il y en a qui le font. Et une fois qu'ils ont digéré, pof, c'est de la merde. Alors que ça, vous le gardez longtemps. Et quand il y a des éléments blancs dans un ciment foncé, ces éléments blancs, c'est une roche qu'on appelle de l'anorthosite, qui est faite à 95% de feldspath plagioclase, dont l'anorthite. Donc les continents, c'est fait d'anorthosite cassé en 1000 morceaux. Grâce au sismomètre déposé par les missions Apollo, là c'est Apollo 11, mais toutes les missions Apollo ont déposé des sismomètres, on a une idée de la structure interne de la Lune. Ça, c'est un résumé. Il y a la croûte, dire qu'il fait à la louche une centaine de kilomètres. Il y a le manteau, qui fait à la louche 1200-1300 kilomètres. Et il y a un tout petit noyau en proportion. Il n'est pas exclu, c'est pas formel, il faut retourner déposer des sismographes, qu'il y ait un petit peu de manteau suffisamment chaud pour être, pas liquide, mais mollasson. Quant au noyau, on ne sait pas, on n'est pas sûr si tout est solide ou s'il y a un peu de liquide à l'extérieur, on ne sait pas. Et les rares tremblements de terre lunaires sont à peu près à la base du manteau, la limite entre le manteau bien dur et le manteau un peu moins dur. Les séismes sont très faibles. 10-13 fois en énergie libérée que la Terre. Et comme la Lune est 100 fois plus petite en masse, grosso modo, 1 km cube de Lune libère 10-11, ça fait 100 milliards de fois moins d'énergie sismique libérée par kilomètre cube de Lune que par kilomètre cube de Terre. C'est calme, la Lune. Et cette structure s'explique très bien. Si vous imaginez que la Lune était entièrement fondue il y a un certain temps, les plus nés, quand ça s'est refroidi, ça a cristallisé, ce qui est plus dense, c'est le fer. Alors, il n'y en avait pas beaucoup, mais un petit peu, il est descendu au milieu. Les plus légers des silicates, c'est les feldspathes, ils sont montés en la surface, ça fait la croûte lunaire. Et les silicates de densité intermédiaire, principalement olivine et pyroxène, se sont restés au milieu, ça fait le manteau. Après, c'est longtemps plus tard, le manteau a refondu, pour des raisons X ou Y, que j'ai du mal à vous expliquer, pour faire ces grands basaltes des mers. Et la géochimie, avec les échantillons qu'on a ramassés, confirme en gros ce modèle. Mais on a ramassé tous les échantillons, grosso modo, sur un petit quart de la face visible, là où on s'est posé les missions. Il faudra ramasser ailleurs, ailleurs que le milieu là, et puis sur l'autre côté. Et il faudrait déposer des sismographes un peu partout sur la Lune. Donc il faut retourner sur la Lune, c'est la conclusion, il faut retourner sur la Lune, automatiquement ou avec des bonhommes. Alors revenons à mon problème. Les mers lunaires basaltiques sont, pour simplifier, que d'un côté. Pourquoi ? Alors je vous dis tout de suite, ce n'est pas parce qu'il y a plus de cratères d'un côté que de l'autre. Il y a autant de cratères d'un côté que de l'autre, et même le plus grand des cratères, il est sur la face cachée. Et le plus grand des cratères, d'ailleurs, il n'est pas plein de mer. Donc, et puis on a vu que les mers n'avaient pas grand-chose à voir avec les cratères, sinon une relation géographique. Alors, avec les missions post-Apollo, qui n'existe pas pour la presse, pas la presse sérieuse, mais la presse, les Américains ont abandonné la Lune depuis 72, absolument pas vrai, on a pu faire des tas de choses. Par exemple, on avait un satellite qui mesurait l'altitude, qui mesurait la gravité, et avec des choses, j'ai expliqué comment on faisait dans mon fil jaune sur la structure interne des corps solides du système solaire, on peut mesurer l'altitude partout. Voici l'altitude. Vous voyez que l'altitude est statiquement plus basse sur la face visible que sur la face cachée, à l'exception de cet énorme gros cratère que vous avez là. Le bassin du pôle sud. On peut mesurer la gravité. Alors là, c'est l'inverse. La gravité est plus faible sur la face cachée que sur la face visible. Avec toujours une exception, ce gros cratère. Et quand on a l'altitude et la gravité, on peut assez facilement retrouver l'épaisseur de la croûte. Et l'épaisseur de la croûte, elle est marquée là. Vous voyez que sur la face visible, en moyenne, allez, c'est 30-40 km. Et sur la face cachée, en moyenne, c'est 60 km. La Lune a deux types d'épaisseur de croûte, épaisse sur la face cachée, mince sur la face visible. Alors, si, pour une raison X ou Y, parce que Dieu l'a voulu ainsi, il y a cette dualité d'épaisseur des croûtes, à cause des marées, c'est normal que la face à croûte épaisse soit la face cachée et la face à croûte mince soit la face visible. Ça s'explique très bien par la mécanique. C'est une histoire d'axe principal d'inertie minimum. Mais ça n'explique pas pourquoi il y a cette asymétrie, moitié d'un côté, enfin, moitié épaisse, moitié fine. Alors, une grande question, parce qu'il y en a déjà qui ont vu des volcans sur des continents, le Kilimandjaro, le Puy de Dôme, chose qui arrive. Le basalte, c'est liquide, ça a une densité de 2,8, c'est-à-dire 2800 kg par mètre cube. La croûte continentale, c'est une densité de 2,7, 2700 kg par... C'est un peu l'analogie entre de l'eau, la mer, la banquise est moins dense que l'eau. Si un phoque fait un trou dans la banquise, est-ce que l'eau va jaillir? Non. L'eau va monter, en principe d'Archimède ou de Blaise Pascal, suivant que vous préférez les Grecs ou les Auvergnats, vous pouvez calculer la hauteur à laquelle monte l'eau, dans un trou de phoque, elle va monter de 90 cm, si vous avez un mètre de banquise, elle va s'arrêter à 10 cm de la surface. Ça, ça ne choque personne. Mais si vous mettez un basalte, vous mettez du basalte juste sous la croûte, là, basalte bien chaud, bien liquide, etc., densité 2800, la croûte 2700, il n'y a aucune raison que le basalte monte à la surface. Il devrait s'arrêter, quand on fait les calculs type Blaise Pascal, à 1100 mètres sous la surface avec les chiffres que je vous donnais. Donc à chaque fois que vous voyez un volcan sous un continent, il faut vous dire qui a pompé pour faire sortir le basalte qui n'a aucune raison de sortir tout seul. Et ne me dites pas que c'est les gaz qui propulsent, parce que les gaz sortent du basalte qu'une fois qu'il est à la surface. Parce que quand c'est sous pression, ils sont dissous. Il n'y a pas de bulles dans une bouteille d'eau Perrier. Les bulles n'apparaissent que si vous mettez ça à la pression atmosphérique en enveloppant le bouchon. Alors les bulles apparaissent. Donc une fois que le basalte est sorti, on explique pourquoi des gaz pourraient le faire sortir. Mais ça n'explique pas pourquoi il est sorti. Et vous prenez 99,999% des livres de SVT, vous prenez Haroun Taziev, Péasona, mais plein d'autres, ils vous expliquent que c'est des gaz qui font monter le basalte. Ils ont jamais lu ni Blaise Pascal ni Archimède. Alors, si vous voulez que ça sorte, il faut pomper. Mais pas une pompe magique, il faut une pompe physique. Et la seule pompe physique raisonnable, c'est la poussée d'Archimède. Vous voyez autre chose? Eh bien, par exemple, il faut que la pression ici soit égale à la pression là, Archimède et Blaise Pascal. Ici, c'est 2700 kg par mètre cube. Le manteau, c'est 3300. Le basalte, c'est 2800. Vous faites un calcul qui, de mon temps, se faisait en classe de seconde. Alors, ce n'est pas avec du basalte, c'était de l'huile, du mercure, de l'eau dans des tubes en U. Vous vous rappelez les vieux qui étaient en seconde, on faisait des problèmes qui n'étaient pas toujours agréables, hein? Au lieu de faire de l'huile, du mercure et tout ça dans un tube en U, on aurait pu faire du basalte, de la croûte et du manteau, mais bon. Si vous calculez, vous voyez que si vous mettez votre zone de basalte à 36 km, donc 6 km à la base de la croûte, ça affleure à la surface, vous avez la lave qui va arrêter, paf, qui va s'arrêter. Si vous voulez que ça monte à 6 km, c'est l'altitude du Kilimandjaro, il faut que vous mettiez votre zone de production de basalte à 70 km. J'ai évidemment simplifié, j'ai éliminé tout frottement, toute perte de charge et tout ça, ça l'aide. Donc on peut maintenant comprendre. Pour une raison que je ne connais pas, la croûte est plus épaisse d'un côté que de l'autre. Là j'ai mis 50, là j'ai mis 100, c'est pour simplifier mes calculs. Là c'est ma densité de croûte, là c'est mon manteau. Je suppose que pour une raison géologique que j'ai du mal à apprécier et à comprendre, je fonds partiellement mon manteau à 120 km de profondeur. Et j'applique le bon vieux principe d'Archimède Blaise Pascal. Dans les deux cas, ça va monter à 115 km d'altitude, parce que tout ça c'est en équilibre hydrostatique. 115 km d'hydrogène, ça ne va pas sortir. 115 km, ça va sortir. C'est parce que la croûte est plus mince. La croûte, c'est un obstacle non pas mécanique, mais un obstacle pascalo-archimédien à la sortie du basalte. Et comme la croûte est plus mince, l'obstacle pascalo-archimédien est plus faible. Le basalte sort, là il ne sort pas. Alors il y a d'autres choses. Ça c'est la face visible, la face cachée. Si on peut analyser de l'espace avec des spectres, la chimie globale. Et en particulier si vous analysez la radioactivité, vous avez un spectre au gamma, vous voyez les rayons gamma que la Lune émet. Et les trois sources de radioactivité gamma, 4, c'est uranium-235, uranium-238, potassium-40, thorium. Chacun a ses longueurs d'onde gamma. Et si vous branchez votre spectroscope sur la longueur d'onde gamma du thorium, vous avez la teneur en thorium de la surface de la Lune, disons des 5 premiers mètres. Et ça, c'est extraordinairement étonnant. Vous avez deux tâches, une tâche pas très intense, une tâche très intense. Il y a beaucoup de thorium. Alors beaucoup, c'est à peu près comme les roches terrestres. Mais dans ce beaucoup de thorium, c'est vrai dans le basalte, c'est vrai dans les continents ordinaires. Toutes les roches de ce coin-là, qui sont très variées, ont une anomalie en thorium. Ça veut dire que tout ce qui est dessous, il y a une anomalie en thorium profonde qui se retrouve dans toutes les roches amenées à la surface par les impacts, par les mers, etc. Et la même chose en moins important sur la face cachée dans le grand cratère pôle sud. Entre parenthèses, le deuxième robot chinois s'est posé là. Pourquoi cette anomalie chimique interne qui se traduit par une anomalie chimique en surface, je ne sais pas. Donc il faut que je me dépêche. L'origine du volcanisme récent. Pourquoi la croûte a ces deux épaisseurs si variées? Pourquoi la géochimie de l'intérieur est si différente? Tout ça, ça fait partie des grandes questions qu'on ne connaît pas sur la Lune. On va parler de la tectonique sur la Lune. Alors, tectonique, ça veut dire mouvement en géologie, pas forcément tectonique des plaques. La tectonique des plaques, c'est une tectonique, mais on peut avoir de la tectonique, pas des plaques. Tectonique non plaque. C'est le cas, par exemple, sur Vénus. Alors, y a-t-il de la tectonique sur la Lune? Alors, la réponse, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais en cherchant bien, il y en a. Voici la mer des humeurs. D'ailleurs, on a vu quelques failles, là, tout à l'heure. Voici la mer des humeurs. Si on regarde là, on voit donc des cratères, tout ça, et on voit que tout ça, c'est traversé par des grandes failles. Et ces grandes failles sont plus ou moins concentriques à la mer des humeurs. La mer des humeurs, oui, c'est des failles qui font le tour, comme ça. Parallèle au bord. C'est étonnant, ça. Parallèle au bord, mais ça recoupe les coulées de lave. Or, les coulées de lave sont beaucoup plus récentes que la mer, que le basalte de la mer des humeurs. Donc, ce n'est pas des fractures faites par l'impact. Alors, voilà, en vue oblique de ces failles, comme ça. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de géologie, mais c'est le géologue, niveau Bac plus 2, reconnaît que ce sont des failles normales, donc pour faire ça, il a fallu tirer, comme j'ai dessiné avec les flèches rouges, là. Alors, je montre quand même ces super failles, là. C'est quand même très beau. C'est beau, hein. Alors, des fois, les failles sont associées à des trous qui peuvent être soit du cratère de suturage, soit des petits volcans, nom de la faille. Regardez ça, c'est quand même marrant. C'est pas Dieu avec une mitraillette qui a visé la ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta pour faire des cratères de météorites juste au milieu du Graben, hein. Non, c'est pas ça. En haute mer, c'est la mer de la Sérénité, voilà. On va zoomer ce coin-là. Et puis on va revoir les structures qu'on a vues tout à l'heure. J'ai dit, je vous en parlerai bientôt. C'est le moment. Regardez ici, le bord de la mer. Des graben concentriques au bord de la mer. C'est banal, on vient de le voir. Mais des trucs bizarres, concentriques ou radio dans la mer. Et ces trucs concentriques et radio, qu'on appelle des rides, mais ça ne mange pas de pain, donner un nom n'est pas une explication, on dirait des anticlinaux. Un anticlinal, vous savez ce que c'est, hein, voilà ce que c'est qu'un anticlinal. Voilà ce que c'est qu'un anticlinal, vous poussez, ça fait une pause comme ça. Et là, Apollo 17 avait un radar qui pouvait séparer les principales couches de lave dans la mer. Et on voit que quand le radar est passé au-dessus, il a fait comme un profil sismique, et vous voyez qu'effectivement, ça ressemble à un anticlinal, comme on avait dans nos livres de géographie et de sciences naturelles, à l'époque où on faisait de la géographie et des sciences nat au lycée. Donc voici l'anticlinal, vu au radar par Apollo, voici comment on fait un anticlinal, on pousse. Ça veut dire qu'a priori, on a poussé. Alors là, c'est étonnant, on a poussé ici, et on a tiré comme ça, d'après les graben et les anticlinaux. Alors c'est facile à expliquer. Voici la surface de la Lune il y a 3,9 milliards d'années. L'impact de la mer de la Sérénité. Vous faites un grand trou. Mais un grand trou parce que vous avez expulsé. C'est le grand trou. 500 millions d'années plus tard, vous remplissez ce trou de basalte. C'est dense le basalte. Que va faire le trou que vous remplissez de 10 km de basalte? Il va un peu s'enfoncer, fléchir. Donc, alors je vais me changer, ça va faire comme ça. Vous allez augmenter le rayon de courbure. Et vous allez faire de la compression interne, tout simplement par variation du rayon de courbure. Mais si vous faites plier le bord comme ça, ça fait plier le centre sous le poids, ça va faire remonter les bords. Et vous allez faire sur les bords une petite bosse, et là vous allez faire un rayon de courbure comme ça. Et là ça casse. Donc c'est normal que vous cassiez les bords externes en extension et que vous compriniez l'intérieur en compression. Tout ça parce que vous mettez du basalte qui appuie. C'est de la géologie de base, Bac plus 2. Alors, il y a un buzz, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2010, il y a eu un buzz, alors ça c'est l'article de Science, mais il y avait sa même chance à venir, la Lune rétrécit. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez pas. Alors voilà le titre de Science, évidence de failles inverses, c'est des failles dues à un raccourcissement, sur la Lune, révélée par Lunar Reconnaissance Orbiter, vous savez, la sonde lancée par les Américains qui ne vont plus jamais sur la Lune depuis 72. Elle tourne encore, elle marche très bien, Lunar Orbiter. Et voici une de ces structures chevauchantes. Il y a ce compartiment-là qui passe par-dessus, qui chevauche ce compartiment-là. Ça, c'est une photo de l'escarpement Lincoln, sachant qu'Apollo 17 s'est posé juste à côté. Alors voilà un autre escarpement face, comme ça. Un géologue qui n'a pas l'habitude dirait, tiens, c'est le front d'une coulée de lave. Hein, ça ressemble, c'est lobé. Ben, pas du tout, avec de l'œil, on ne sait pas. Et comment on interprète ces trucs-là? C'est simple. Vous avez, donc, vous poussez très fort, vous cassez, il y a un compartiment qui a tendance à chevaucher l'autre. Alors, chevaucher de combien? Alors le voilà. Alors des fois, vous avez la chance, on va regarder B. Dans B, on va regarder C, voilà un détail de C. Là, il y a des cratères, regardez, il en manque un bout. On a la moitié d'un cratère qui est là, l'autre moitié a disparu, parce qu'elle s'est fait chevaucher. Donc, avec ça, vous pouvez estimer l'ordre de grandeur du chevauchement. Savoir si c'est 10 mètres, 100 mètres, 1000 mètres, etc. En regardant les parties manquantes du cratère, hein, c'est pareil ici, etc. Alors, ça a évidemment été fait. Alors, voilà toutes les structures chevauchantes nouvelles, parce qu'on en connaissait déjà avant, identifiées par LRO. Elles sont jeunes. Et moins d'un milliard d'années. À cette époque-là, on ne connaît pas de structure en extension qui compense. On peut dire si ça pousse ici, c'est parce que ça tire ailleurs. Mais à l'époque, on voit que ça pousse et on ne voit pas que ça tire. Si ça pousse partout sans que ça tire, c'est que la surface de la Lune diminue. Donc, voilà, c'est science à venir. Et si la Lune rétrécissait? La Lune rétrécit. Alors, c'est une vieille histoire, hein. Vous avez déjà vu une pomme. La peau de la pomme, elle a pas de, elle a une surface qu'elle a. Elle ne peut pas sécher, elle est déjà sèche, c'est du liège. Par contre, l'intérieur peut se sécher et ça se flétrit. Tout simplement parce que la surface ne change pas, le volume change et ça fait ça. C'était comme ça qu'on expliquait les montagnes et les trous sur la Terre au fin du 19e. Ça, c'est une photocopie du livre de 4e qu'avait mon papa en 1930. On expliquait des choses, maintenant 1900, vous imaginez, l'expliquer comme ça à l'échelle de la Terre au 4e, pouf, on ne fait plus rien. Mais alors l'explication était fausse, mais on la faisait. Alors on peut faire un calcul. Les auteurs de l'article de Science ont pu proposer l'ordre de grandeur de la disparition de surface. Donc il a disparu tant de kilomètres carrés, en regardant la longueur des structures et leur raccourcissement. Diminution de surface, on peut traduire ça en diminution de rayon. Il suffit de savoir la surface de la sphère, 4 pi r carré. Et on y voit que pour observer, il suffit de rétrécir le rayon d'une centaine de mètres pendant 10 milliards d'années, pendant le dernier milliard d'années, ce qui fait en moyenne 10 cm par million d'années, hein, c'est pas beaucoup comme ça, par million d'années. Et ça suffit pour faire les quelques structures compressives. Enfin, ensuite, on fait des calculs de quantables, on dit si la Lune, le rayon a diminué, c'est parce que la Lune s'est refroidie. Connaissant le coefficient de dilatation thermique des roches ordinaires, on peut voir que pour rétrécir un rayon de 100 mètres, il suffit de refroidir de 10 degrés. Ça veut dire que d'après ces estimations en ordre de grandeur, un calcul de quantable, depuis un milliard d'années, la Lune, globalement, a perdu 10 degrés. Pendant l'intérieur de la Lune, pendant le même milliard d'années, la Terre a à peu près perdu 100 degrés, donc 10 fois plus. Mais comme elle était beaucoup plus chaude au départ. Alors on peut, là c'est une publication qui date du 13 mai, on regarde la ride dont j'ai marqué, Apollo ici, et il remarque que quand il y a des rides, c'est le cas de l'Apollo, comme ça, souvent, à côté, on voit des traces d'éboulement récents. Ça, la mission Apollo 17 est même venue voir ce caillou-là de près. Hein. Mais là, on a vu une relation systématique entre les éboulements, il y en a un là, il y en a un là, et ces escarpements-là. Et l'interprétation, c'est que ces failles inverses jouent encore, ou récemment, c'est peut-être il y a 20 millions d'années, quand ça joue, ça fait un petit tremblement de terre, et les petits tremblements de terre déclenchent des éboulements, tout jeunes, tout frais, tout beaux. Et voici un éboulement lunaire déclenché par un tremblement de terre qui a peut-être eu il y a 5 millions d'années, je ne sais pas, à cause de cet escarpement qui est là. Il faut que je finisse à quelle heure? J'ai commencé à... J'ai encore un quart d'heure, ça va. Avant-dernier sujet, l'eau sur la Lune. Alors l'eau sur la Lune, il n'y en a pas. Il fait chaud le jour, froid la nuit, pas d'atmosphère, c'est pas possible qu'il y ait de l'eau. Mais Hergé en mettait. Alors il en mettait avec des stalactites et des stalagmites. Alors ça c'est une grosse erreur, on a vu qu'on peut faire des stalactites et des stalagmites avec du basalte. On n'a pas besoin d'eau pour faire des stalactites et des stalagmites. Et puis il mettait de la glace. Vous voyez Tintin qui patine. Alors, stalactites on a vu. Alors la glace, alors pourquoi mettait de la glace? Hergé dit bah, parce que le jour il fait 120 degrés, mais la nuit à l'ombre il fait moins 100 et quelques. Donc, dans une grotte, il doit faire moins 100 et quelques. Donc, on peut mettre de la glace. Moins 150, c'est écrit. Et il avait tort. Pourquoi? Quelle est la température dans une grotte ou une cave profonde? J'entends pas. Réponse locale vraie, mais si vous allez au Gabon, il ne fait pas 13, il fait 30. Si vous allez en Norvège, il ne fait pas 13, il fait moins 10. Donc quand on vous pose une question générale, quelle est la température dans une grotte, je n'ai pas dit la grotte à côté de chez vous, dans une grotte, la réponse c'est la moyenne été, hiver, jour, nuit du coin. Alors par chez nous, effectivement, dans nos caves ou nos grottes, la température moyenne c'est 12 à 15 degrés, ça dépend de l'altitude où on est, et c'est la température moyenne d'une cave ou d'une grotte. Mais si vous allez dans les hautes latitudes, en Islande, où la température moyenne est de moins 10, eh bien la température moyenne dans une grotte, c'est moins 10. Et d'où on peut voir de très beaux paysages, des stalactites, des stalagmites de glace en haute montagne ou dans les grottes. Donc sur la Lune, la température annuelle, c'est moins 15. Plus 120, moins 150 sur 2, ça fait moins 15. Or, dans le vide, à moins 15 degrés, la glace, ça sublime vite. Vous mettez de la glace, quelques années, elle aura disparu. Comme si vous mettez de la neige carbonique sur la table, elle va disparaître très vite. Donc, il ne peut pas y avoir de grotte dans une de glace pérenne dans une grotte lunaire. Là, Hergé s'est trompé aussi. Mais au pôle de la Lune, pôle nord comme pôle sud, il y a des cratères où le soleil n'éclaire jamais le fond. Donc, la température moyenne, c'est moins 150 plus moins 150 sur 2. Ça fait moins 150. Et encore, moins 150, c'est la température du sol la nuit. Mais le sol la nuit qui était éclairé 15 jours avant. Donc avec quand même magasiné de la chaleur. On a mesuré la température au niveau des pôles, avec les infrarouges, c'est moins 230, 40 K. C'est à peu près la température de Pluton. Et là, si on met de la glace, elle va être stable, elle va rester. Mais qui pourrait mettre de la glace dans les cratères polaires? Eh bien, il suffit qu'il y ait des corps riches en glace, des comètes, des chondrites carbonées, riches en glace, en vapeur, en eau. Prenons cette comète par exemple. Elle tombe sur la Lune, si elle tombe le jour, il fait 120 degrés, l'eau de la comète est vaporisée par la chaleur de l'impact, ça va. Si ça tombe la nuit, l'eau est vaporisée par la chaleur de l'impact, mais il fait moins 150, voire plus froid. Une partie de l'eau se condense, ça fait du givre. Et probablement qu'autour d'un impact lunaire, s'il y a une comète qui tombe la nuit, il y a du givre tout autour. Mais dès que le jour se lève, pouf, le givre se sublime. Sauf s'il y a du givre qui se dépose dans un cratère polaire où le jour n'arrive jamais. Donc potentiellement, il peut y avoir de la glace. Comment savoir s'il y en a? Alors, on est la Terre, la Lune, tout ça, on est bombardé en permanence par des rayons cosmiques qui viennent très énergétiques, qui viennent des supernovas. Sur la Terre, ces rayons cosmiques sont fortement arrêtés par l'atmosphère et déviés par le champ magnétique. Donc il n'y en a pas beaucoup qui arrivent sur la Terre. Il y en a un peu, mais pas beaucoup. Sur la Lune, pas de champ magnétique, pas d'atmosphère, tous les rayons cosmiques, 100%, arrivent. En arrivant par Terre, ils font des réactions nucléaires. Ces réactions nucléaires produisent entre autres des neutrons qui sont réémis. Il se trouve que l'eau contient du deutérium, que le deutérium, ça ralentit les neutrons. On avait besoin d'eau lourde pour faire la première bombe atomique, rappelez-vous le film La bataille de l'eau lourde. Quand il y a du deutérium, et il y a du deutérium s'il y a de l'eau, les neutrons qui ressortent sont lents. S'il n'y a pas de deutérium, les neutrons qui partent sont rapides. Il n'y a plus qu'à mesurer la quantité, l'énergie des neutrons émis par la surface de la Lune et convertir ça, si on suppose que c'est de l'eau, en pourcentage d'âge de jour. Ça a été fait par les Américains après 72, vous savez les Américains qui ne s'intéressent plus à la Lune. Ils ont lancé une sonde qui s'appelle Lunar Prospector et qui a fait la carte du deutérium sur la Lune. Et là où c'est bleu, c'est qu'il y a beaucoup de deutérium. Là où c'est bleu clair, il y en a un peu, mais pas beaucoup. Si c'est pas bleu, il n'y en a pas du tout. Et ça correspond aux endroits où il fait toujours froid. Donc il y a un corps hydrogéné, sans doute de l'eau, mais peut-être autre chose, dans les cratères polaires. Est-ce qu'il y a de la glace vive? Est-ce que si j'y vais, je pourrais voir du blanc? Alors là, c'est une mission japonaise qui a regardé un cratère sur la Lune. Ça, c'est le pôle sud, c'est le cratère Shackleton, juste au pôle sud. Alors, c'est dans le noir, on ne voit rien. On ne peut pas savoir si c'est blanc, il fait noir. Mais si on surexpose très violemment, le fond du cratère est un petit peu éclairé par le reflet du soleil sur le bord éclairé. Donc ici, c'est un peu éclairé par ça. Vous surexposez violemment, alors ça évidemment là vous ne voyez plus rien, c'est surexposé, ici c'est surexposé, mais les parties à l'ombre deviennent grises. Elles deviennent grises de la même façon grise ici que grise là. C'est le même gris. Or là, on sait que ce n'est pas blanc. Parce que des fois, c'est éclairé par le soleil. Donc, si ça, c'est pas blanc, et que là, c'est le même gris, c'est que c'est pas blanc non plus. Donc, il n'y a pas de glace vive dans le cratère. S'il y a de la glace, elle est sale, pleine de poussière, mais pas blanche. Alors les Américains ont décidé, avec une mission qui n'existe pas, puisque c'est après 72, d'aller sur la Lune et de faire écraser le troisième étage de lancement de la fusée au fond d'un de ces cratères perpétuellement à l'ombre. C'est la mission Elcross. Et la sonde était derrière, elle a analysé spectralement la boule de feu et de poussière faite par cet impact. Ça a eu lieu, ça, en 2009. Alors la sonde s'est écrasée là, une partie qui était perpétuellement à l'ombre. Ce que vous voyez, la tache blanche, là, c'est le nuage de poussière surélevé par la sonde, qui montait, et à force de monter, il est sorti. Et là, il est éclairé par le soleil, il est sorti de l'ombre, il est éclairé par le soleil, et la sonde a analysé spectralement ce truc-là. Comme je n'ai pas de l'avance, je passe, je donne les résultats. D'après les résultats, c'est paru dans le Science de octobre 2010, c'est un résultat préliminaire, c'était peaufiné, mais ça n'a pas changé beaucoup. Dans le panache de vapeur, de trucs qu'ils ont vus, il y avait 155, plus ou moins 12 kilos de vapeur d'eau. Et vu la formation des cratères et tout ça, ils pensent que le sous-sol de ces cratères polaires, on va dire pour simplifier, contiennent 5% d'eau. Donc c'est 95% de poussière, etc., mais il y a quand même 5% d'eau, sous forme de glace évidemment, et qu'on a mis en évidence comme ça. Il est probable que l'eau de la Terre a dû arriver de cette façon, mais il y a longtemps. Donc cette eau des cratères polaires, c'est une archive de sens de 4 milliards d'années de bombardements de chondrites carbonées et de comètes qui sont archivées dans ces cratères polaires. Il y a des gens qui veulent l'exploiter pour faire pousser des pommes de terre, des salades ou du carburant de fusée. Et c'est un crime de lèse archive scientifique. Pour se chauffer avec des archives, il faut vraiment qu'on en ait besoin. Hein. Dernier truc, l'origine de la Lune. Alors, on a déjà vu ce tableau au début, c'est Séléné et Endymion. L'origine de la Lune doit, il faut qu'on invente un scénario qui connaît à tout ce qu'on connaît de la Lune. En particulier, il faut qu'on explique pourquoi la Lune n'est pas dans le plan équatorial de la Terre, mais presque dans le plan de l'écliptique. Pas tout à fait, mais presque. Pourquoi la densité de la Lune est plus faible que sur la Terre, donc pourquoi la Lune a beaucoup moins de fer que de la Terre. Pourquoi isotopiquement, ça c'est les échantillons qui l'ont montré, la Lune et la Terre ont de fortes similitudes isotopiques. Et puis, on a pu chiffrer l'éloignement, il y avait un éloignement théorique, on ne pouvait pas le chiffrer, on a chiffré l'éloignement en moyenne 3,8 cm par an, ça dépend des périodes. Il faudra qu'on trouve une histoire qui explique tout ça. Donc, si la Lune s'éloigne, ça veut dire que dans le temps, elle était proche. On le savait, mais c'était théorique. La Lune devait être proche dans le temps, maintenant on sait qu'elle l'était. Alors, la Lune n'est pas dans le plan de l'équateur, elle fait un angle de 17 degrés avec l'équateur, alors que tous les satellites du système solaire, sauf Triton, sont dans le plan de l'équateur de leur planète. Donc la Lune n'est pas comme les autres. La Lune a beaucoup, beaucoup moins de fer en proportion que la Terre. Voici la Lune et la Terre à la même échelle, vous voyez que le noyau de la Terre est beaucoup plus gros que celui de la Lune. Je ne vais pas dans le même. Isotopiquement, la Lune a la même composition isotopique que la Terre. Tous les échantillons terrestres que vous pouvez trouver sont tous sur cette droite. Tous les échantillons lunaires, ceux qu'on a, même ceux-là, enfin ceux-là on ne les a pas analysés, mais si on a analysé, je suis sûr qu'on trouvera, ils sont sur la même droite. Alors que les échantillons de Mars, amenés par les météorites, ou des différents types de chondrites, sont différents. Et puis, on a pu prouver, donc avec des méthodes de laser, hein, allez vous promener un jour près de l'observatoire du Calerne, si vous savez qu'ils font un tir-lune, vous voyez ce faisceau qui va vers la Lune, ça c'est une photo, hein, c'est pas un dessin, c'est extraordinaire de voir ça, la Lune était beaucoup plus proche de la Terre dans le temps. Alors, quand j'étais petit, en 69, Albert Ducrot, à la radio, et puis tous les autres, hein, je ne peux pas le dire, disaient, il y a trois hypothèses sur l'origine de la Lune, on va enfin savoir avec Apollo ce que c'est. Première hypothèse, la Lune est un morceau de la Terre, parce qu'au départ, la Terre tournait très vite, et par effet de fronde, il y a pof, il y a un morceau qui a jailli. Il y a même des gens qui ont prétendu que l'océan Pacifique, c'était la cicatrice de cette éjection. Ça, c'était une hypothèse mise à la fin du 19e siècle, on ne connaissait pas la tectonique des plaques, ce n'est pas scandaleux. Il y a des gens qui disent, la Lune et la Terre sont ancrées au même endroit. Bon. Mais dans ce cas-là, ça n'explique pas du tout. Alors ça explique beaucoup de choses, mais sauf ça n'explique pas pourquoi la Lune n'est pas dans l'équateur. En effet de fronde, on doit être dans le plan de l'équateur. On n'y est pas. Là, ça n'explique pas la faible quantité de fer. Il y a des gens qui disent, oui, il y a un astéroïde venu d'ailleurs, qui a été détruit parce qu'il est passé près des forces de marée, et qui s'est reconstitué. Mais ça n'explique pas l'identité isotopique. Donc c'est pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors c'est en 75 qu'il faut proposer par Hartmann, on en a déjà proposé, pour expliquer tout ce qu'on connaît. La moins mauvaise des solutions, ou la meilleure des solutions, c'est d'y poser un corps qui a à peu près la taille de Mars, qu'on a appelé Theia, qui a heurté la Terre, les débris se sont tous remélangés et ça a fait la Lune. Alors on a fait, voilà le système Terre-Lune, quelques semaines après l'impact. Vous avez la Lune, enfin la Terre, toute à moitié fondue, oui c'est rouge, parce que le choc a certainement fondu la Lune sur plusieurs centaines de kilomètres d'épaisseur. Et les débris vont se réaccréter, c'est encore tout chaud, vous voyez, c'est un dessin évidemment, pour reformer la Lune. Alors même nos amis les militaires n'osent pas simuler en vraie grandeur ce machin-là, en mettant plein de bombes atomiques pour voir ce que ça fait. Alors on peut faire que des simulations informatiques, je me dépêche, et à coup de simulation informatique, et bien qu'il reste quelques problèmes, ça marche à peu près. Donc, à des détails près, la Lune a dû se former comme ça. Et la conclusion de tout ça, pour l'instant il me reste 2 minutes, ça va, c'est que la Lune, bien que ce soit un corps a priori très simple, c'est le mieux connu de tous les corps du système solaire. Vous voyez qu'il reste plein d'inconnus, pourquoi il y a du volcanisme récent? Pourquoi une anomalie chimique de la Lune qu'on voit par exemple par le thorium? Pourquoi la croûte est plus épaisse d'un côté que de l'autre? D'où viennent les gaz qui propulsent le volcanisme pyroclastique? Son origine, j'ai dit, il y a quand même des détails qu'on ne comprend pas. Hein. Il y a encore des problèmes, ça ne marche qu'à peu près. Il faut y retourner et envoyer des géologues, pas des pilotes de ligne, ou des pilotes militaires. Alors tout le monde l'a compris, sauf l'Europe évidemment, parce qu'elle ne comprend jamais rien à rien. Elle préfère fantasmer sur des villages lunaires, mais on ne sait pas pourquoi faire. Hein. Donc tout le monde retourne sur la Lune, sauf l'Europe. Par exemple, U2, c'est comme ça qu'il s'appelle, posé par Chang 4. Et là, j'ai mis ces photos de la sonde envoyée par les Américains qui s'intéressent de la Lune depuis 1972. Vous voyez le site d'atterrissage de Chang 4 où il n'y est pas. Donc en décembre, il s'est posé début janvier. En février, il est là. Le 1er février, il est là. Et le robot part. Là, le robot n'est pas parti. Là, le robot est parti. Il a fait 40 mètres. Et il est là, vous voyez. Là, on est le 28 février, donc il n'a pas beaucoup bougé, mais donc on le voit, alors l'éclairage n'est pas le même, on le voit, donc il est là. Donc les Américains peuvent suivre ce que font les Chinois sur la Lune. Ils ne nous disent pas leurs résultats scientifiques, mais ils ne peuvent pas marcher incognito en se cachant. Donc voilà, c'est vraiment ma conclusion. Il est 30, j'ai vraiment fait mon heure et quart parfaitement. Merci de votre attention.